Bon, je m'appelle Gert Lehmann, j'habite à Lilia depuis 2005.
Gerd, quel est ton métier?
Charpentier de marine.
Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est qu'un charpentier de marine? Ou est-ce que tu as comme... C'est une passion pour toi?
Ah oui, bien sûr, oui. Oui. C'est un métier qu'on ne fait pas pour devenir riche, ça c'est sûr.
Tu as commencé quand?
J'ai commencé en 80. 5.
C'est quoi ta formation pour devenir ce charpentier de marine, justement?
J'ai d'abord cherché en Allemagne parce que je suis né en Allemagne, j'habitais en Allemagne. J'ai cherché en Allemagne à faire un apprentissage traditionnel et je me suis vite aperçu que c'est on perd beaucoup de temps dans les apprentissages traditionnels du genre parce qu'en Allemagne c'est 3 ans et demi et c'est très très traditionnel. Ça veut dire on passe déjà la première année à balayer. Donner que des coups de main, du coup, bon, je cherchais à droite à gauche et j'ai trouvé qu'il y avait une école de charpente de marine qui m'intéressait beaucoup aux États-Unis, donc dans l'état du Maine. C'est une école qui a une pédagogie vraiment particulière et qui a un programme sur 2 ans. Voilà, donc j'étais candidat, j'ai été choisi et je suis parti là-bas. Très peu après mon bac. Voilà, je suis resté
Et avant le
deux ans.
bac, quand tu étais en Allemagne, tu tournais déjà autour des bateaux, tu travaillais sur des bateaux ou pas?
Oui, j'étais très attiré par les bateaux, je fais de la voile, le dériveur, mais j'étais très attiré par les bateaux bois, les bateaux traditionnels, les grands bateaux, je voulais être marin et j'ai très vite fait du bénévolat sur des projets de restauration sur la Baltique. Et je suis passé d'un projet à l'autre. Finalement, je suis resté surtout avec un projet, c'était la restauration du bateau Torhayadal. C'est un bateau qui allait faire du charter et les navigations avec des jeunes. Et quand le bateau était fini, j'ai commencé à faire des sorties avec eux en tant qu'équipage. En tant qu'équipage en mer Baltique. Et ça m'a beaucoup plu. Et quand le bateau, après, partait pour les plus grandes navigations, je négociais avec l'école où j'avais un peu la déprime. Je négociais avec l'école de prendre une année sabbatique pour naviguer sur ce bateau. C'est ce que je fais.
Tu viens de dire, en fait, je voulais être marin. Ton rêve, c'était d'être marin ou d'être plutôt charpentier de marine
C'était
ou
marin,
c'était marin.
mais j'étais très très bricoleur.
Et donc, charpentier de marine, ça a découlé de cette envie de marin. Tu t'es dit plutôt charpentier que marin.
Ouais, après l'année à bord, où j'ai beaucoup travaillé avec les charpentiers du bord, et ben, j'étais sûr que marin, c'était pas ma destination.
Et que charpentier, au
Voilà,
contraire, c'était
qu'il y avait
vraiment ce
plus
que
de
tu avais envie de
créativité, il
faire.
y avait le bois, il y avait.
Oui.
Voilà, ça me convenait mieux.
Donc tu fais cet apprentissage où tu apprends ton métier aux États-Unis, dans l'état du Maine. Et quand tu en sors, qu'est-ce que tu as envie de faire? D'abord,
Bah
tu tombes amoureux finalement là-bas.
voilà, je connais Natacha là-bas. On s'est
Natacha
rencontré.
qui est française.
Elle est française, on s'est rencontré à New York.
Oui.
Elle est restée une année avec moi là-bas et après on est revenu ici parce qu'elle avait des études en cours à Brest. Et moi, j'étais plus ou moins au courant des projets qui se faisaient déjà ici, autour du chasse-marée, musée du bateau et tout ça. Et j'ai très vite trouvé du travail au musée du bateau à Douarnenez. Et après, ça a enchaîné sur des emplois autour du musée, avec les chasse-marées, les ateliers l'enfer, où j'étais formateur pendant un bout de temps. J'ai tourné dans les chantiers aussi. Parce que pour moi, j'étais toujours en apprentissage dans ma tête. Je voulais faire un compagnonnage, faire le plus de chantiers possible. Donc je passais d'un projet à l'autre. On est parti un an en Norvège aussi, parce que j'étais très attiré par la construction nordique. Et puis on est revenu ici, il y avait beaucoup de projets, et je suis resté plutôt attaché au chantier d'Ygypte.
À Brest,
À
donc.
Brest où on enfin, encore aujourd'hui, des super projets. Des projets de bateaux de tout genre, ce qui rend le travail plus intéressant qu'il était à l'époque, je pense. Parce qu'à l'époque, les charpentiers de marine, ils faisaient un genre de bateau pour satisfaire le marché local. Donc les bateaux se ressemblaient tous. Il y avait des petites évolutions, mais c'était pas aussi varié que le métier est maintenant. Surtout au chantier du GIP, où on fait vraiment tout ce qui est bateau bois. Donc ça va de la petite annexe au bateau de pêche, au yacht classique, au bateau classé monument. Là, on va faire un bateau lavoir. On touche vraiment à tout. Donc à chaque fois, c'est nouveau. Il faut s'adapter, étudier. C'est ça qui rend le travail intéressant.
Et quand tu dis ce qui rend le travail intéressant, on a l'impression, ou tu donnes l'impression d'être toujours, finalement, en apprentissage de quelque chose. C'est
oui.
Vrai ou pas?
Oui.
C'est ce qui t'intéresse dans ce métier de
toujours découvrir du nouveau, de pas tomber dans une routine.
Oui.
Voilà, c'est ça.
Et est-ce
mais
que
ça c'est
veut
la
dire...
même chose dans tous les autres métiers aussi.
Et est-ce que ça veut dire que quand on te propose un nouveau chantier, quoi, tu as aussi des recherches à faire quelquefois pour améliorer...
Ah oui, à chaque fois.
À chaque fois,
parce que souvent, les projets qu'on fait, c'est des bateaux qui sont classés monuments. On est obligé de travailler dans l'authenticité. On fait très attention au démontage de l'original, on prend note, on a des documents, on a des architectes qui ont déjà étudié le projet. Enfin, c'est toute une étude, ouais. Parce qu'on a envie de faire quelque chose d'authentique.
Et toi, tu es
surveillé d'ailleurs aussi.
Ouais. Et toi, tu es dans la transmission. Je veux dire, tu es prêt à transmettre ton métier à une nouvelle génération.
Ah oui, ça je fais depuis.
Tu le fais déjà.
Ah oui, j'ai beaucoup de plaisir. Hein. Et à ça, donc déjà en tant que formateur, je beaucoup transmis. Et au chantier d'équipe, je suis toujours avec un ou deux apprentis. Quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est très important. J'ai des collègues, ils ont beaucoup de mal à ça. Il y a des gens qui ont beaucoup de mal à partager. Comme s'ils devaient garder un secret, c'est complètement débile. Parce que ça ne sert à rien. Et il y a beaucoup de chantiers comme ça, d'ailleurs. Quand j'étais en Norvège, il y a plein de secrets comme ça. Maître charpentier, il s'arrangeait pour m'envoyer faire des courses. Le jour, il faisait vraiment des choses intéressantes. C'est plutôt je ne sais pas. Il doit être un peu complexé pour cacher les choses comme ça. Et au chantier du GIP, c'est pas du tout ça. On a toujours beaucoup de jeunes motivés qui viennent de tous les côtés. Aussi d'autres métiers du bois qui cherchent justement autre chose. On a beaucoup de stagiaires, on est très ouverts. Et ça rend le travail agréable aussi.
Et pourquoi finalement, pourquoi vous êtes-vous installé à Plouguerneau?
C'est une bonne question, ça.
Toi, le marin, le charpentier de marine, pourquoi Plouguerneau?
Parce qu'on voulait être soit près du travail, soit près de la mer. Mm-hmm. Avant, on a habité pendant 10 ans au Folguet, où on était entre Brest et la mer. Et on prenait la voiture pour aller au travail, on prenait la voiture pour aller à la mer. Et puis, on a choisi l'option plutôt près de la mer. Donc, on a cherché sur toute la côte et on est tombé par hasard sur ce terrain ici où on a négocié avec le propriétaire. Et voilà, c'était un coup de chance.
Et donc, en plus d'être charpentier de marine, on peut dire que tu es charpentier de maison puisque tu as aussi... ce courage de construire ta maison tout en bois.
Oui, bah ça c'était une idée que j'ai depuis longtemps. C'est quelque chose que j'ai jamais fait, ça me tentait beaucoup. J'ai même essayé d'en faire un métier parce que je me suis fait embaucher pour faire une deuxième maison pour un client. Je tâtais un peu le terrain parce que on gagnait quand même mieux sa vie dans le bâtiment. Mais ça n'a pas été long. Donc, déjà, au bout de la deuxième maison, je trouvais que c'était la routine et que c'était un milieu désagréable parce que c'est un milieu où les gens ils travaillent plus pour la beauté du geste ou pour faire de la qualité. Il y a vraiment. C'est très très dommage. Moi, j'ai pas connu ça en Allemagne. En Allemagne, on peut dire que les charpentiers ils sont encore un peu fiers de ce qu'ils font. Mais ici, je suis très très déçu des artisans qui. Voilà, qui expédient le travail au plus vite et qui n'ont pas de fierté de ce qu'ils font.
Donc ça la c'est donc tu as eu du plaisir quand même à construire ta maison?
Ma maison, oui,
Oui.
oui, oui. Mais j'ai eu beaucoup de mal avec les artisans. Les quelques artisans que je fais venir, ça s'est très mal passé. Et pour la deuxième maison que je fais pour ce client-là, c'était la même chose. Donc ça m'a vraiment confirmé l'idée que je me fais maintenant du bâtiment.
Et donc tu étais fait pour être charpentier de marine.
Voilà, je pense.
Alors en tant que charpentier de marine, tu as un bateau?
Oui, j'ai plusieurs bateaux même,
Et tu navigues
mais.
tous les week-ends,
Peut-être pas tous les
enfin
week-ends, mais on navigue
beaucoup.
beaucoup, oui.
Beaucoup.
Ouais.
Tu dis j'ai plusieurs bateaux. Qu'est-ce que tu as comme bateau alors?
Bon, on a eu un bateau. C'est notre bateau de famille qu'on a depuis très longtemps. Et puis depuis on a un bateau presque du même genre qu'on nous a donné. C'est un vieux monsieur qui nous connaît un peu et qui a pas besoin avait pas besoin de l'argent pour vendre son bateau. Il a préféré le confier à quelqu'un qui sait qu'il va bien s'en occuper. Donc voilà, on s'est trouvé avec ce bateau-là. On a un petit dériveur et puis on a un bateau qui est en chantier, qui est dans le hangar, qui est en chantier depuis 10 ans parce que je trouve pas le temps de le finir. Voilà. Mais on navigue aussi beaucoup avec des gens qu'on connaît ou autour du chantier, j'ai beaucoup d'occasions à embarquer. Quand on construit un bateau, en général, on fait des essais. Très souvent, on se fait des amis aussi parmi les clients qui cherchent très souvent de l'équipage. Donc, ce n'est pas des occasions qui manquent.
Bon. Eric, tu veux poser d'autres
Un petit
questions,
projet de livre, peut-être?
J'avais commencé un livre sur des bateaux à Klein, mais ça, c'est toujours un projet. Le chasse-marée est très très intéressé, mais c'est un travail énorme et je trouve pas le temps. Je fais un peu de travail des plans. Par contre, ah oui, je fais un diplôme d'architecture navale aussi. Parce que c'était quelque chose qui m'intéressait pour mieux comprendre les bateaux. Et peut-être pour en faire un métier un jour, j'avais donc hérité un peu d'argent avec mes parents et je suis retourné aux États-Unis faire un diplôme en architecture navale dans une autre école. Et puis j'ai appris plein de choses, mais je me suis rendu compte que faire ce métier, ça veut dire être devant un ordinateur toute la journée et ça, je ne vais pas faire ça. Donc j'utilise mes connaissances au travail aussi. On fait quelques calculs nous-mêmes maintenant au chantier, on fait des plans des plans de certains détails, des plans de voilure, des choses comme ça, mais j'en fais pas mon métier.
Alors que tu as ce diplôme d'architecte naval.
Oui.
D'accord. Mais tu préfères être travailler la matière,
Voilà, sur
quoi,
le
d'être
chantier,
sur le
voir le
chantier.
résultat en fin de journée,
Ouais.
ça me convient beaucoup plus.
Ouais. D'accord. Et donc
Maintenant, est-ce
ce.
que je vais pouvoir faire ça toute ma vie? C'est pas sûr du tout parce que c'est un métier très physique. Donc j'aurai toujours recours à l'architecture ou.
Gerd, quand tu fais cette école d'apprentissage pour devenir charpentier de marine aux États-Unis dans l'état du Maine, c'est une école gratuite? C'est un concours que tu passes, que tu réussis?
À l'époque, c'était une école gratuite et c'était la seule qui était gratuite et c'était une philosophie de l'école de la rendre accessible à tout le monde et de ne pas faire une école payante qui est accessible qu'aux riches. Donc déjà ça m'a beaucoup plu. C'était une école avec une pédagogie complètement opposée aux autres écoles, c'est-à-dire elle fonctionne comme un chantier naval. Il n'y a pas de programme scolaire, il n'y a pas de début d'études. il n'y a même pas de fin vraiment définie d'études, il n'y a pas d'examen. On rentre dedans, dans l'école, quand il y a un apprenti qui quitte l'école.
Mm-hmm.
C'est une décision qui est prise par tout le monde. Et puis on est candidat, on met son nom sur la liste, et puis parmi les candidats, 6 mois avant que l'apprenti quitte le chantier, on choisit le nouveau apprenti. Voilà, c'était comme ça à l'époque. Pour les étrangers, ils voulaient absolument être international et avoir des étrangers. Ils avaient, comme c'est difficile pour les étrangers de se présenter, parce que tous les candidats, ils devaient se présenter soit par du bénévolat pendant 3 semaines ou par un stage payant qui était organisé aussi par l'école pour connaître l'école et tout ça. Donc pour les étrangers, c'est effectivement difficile. Et du coup, ils prenaient un étranger par an et on lui donnait une garantie de 6 mois.
Donc ça a été ton cas.
Donc c'était mon cas. Moi, j'ai rencontré le directeur à Londres. Je me suis quand même déplacé pour faire la rencontre, tout ça. Donc j'étais pris et pendant ces 6 mois, je pouvais mettre ma candidature comme tous les autres, au même niveau que les autres candidats. Et j'étais choisi donc pour l'apprentissage de 2 ans pendant cette période-là.
Et tes collègues apprentis aussi, tu étais le seul non-américain ou il y avait
aussi...
Bah
non, puisque tous les ans ils prenaient un étranger, on était plusieurs, il y en avait 3, il y avait un anglais, donc moi, et un italien.
Mm-hmm.
Mais avant ça, il y en a eu plein de nationalités, il y a eu un israélien, il y a eu un espagnol...
Et quelle était par exemple la proportion de filles? Il y avait aussi des filles ou c'est plutôt un métier masculin?
Non, à l'école là, il y avait pas mal de filles. Il y avait peut-être un tiers,
mm-hmm.
un tiers de filles. Il y avait tous les âges aussi. C'était pas que des jeunes, il y avait aussi des gens un peu âgés. Et puis ça fonctionnait. Donc comme c'est une école... gratuite, il fallait donner de son travail pour faire fonctionner le chantier. Donc il n'y avait pas, comme dans une autre école, où quand le toit est cassé, il fuit, on ne faisait pas venir une entreprise, on la réparait nous-mêmes. On avait des bateaux à flot, qu'on utilisait nous-mêmes, ou qu'on louait aussi, que nous on entretenait. On entretenait nos machines, on commandait le bois, on faisait tout ce qu'il fallait faire pour faire fonctionner un chantier, on faisait ça nous-mêmes.
Donc c'est forcément très formateur, quoi.
C'est très très formateur. D'un autre côté, on passe beaucoup de temps sur autre chose que la charpente navale aussi. Donc, voilà, on n'est pas là 8 heures par jour à apprendre la charpente navale. Il y avait des semaines qui passaient comme ça, en entretien de bateau, ou en déblayage de neige, ou... Ouais, il y avait un peu de tout, mais ça... Voilà, on a plus une image de ce que c'est de faire fonctionner un chantier.
Mmh. Mmh.
Et donc il y avait 2 formateurs, dont un ancien, très ancien, et un jeune, ce que je trouve est très important dans la formation, et ça manque beaucoup dans nos formations actuelles en France. Il faut qu'il y ait un ancien, il faut qu'il y ait quelqu'un avec beaucoup d'expérience, quelqu'un qui a beaucoup de respect et qui prie au sérieux, voilà, et donc ces deux-là, ils s'occupaient de nous, on était 18 apprentis, ce qui est relativement beaucoup, on avait beaucoup de bateaux en construction, mais le plus jeune travaillait toujours avec le plus ancien, donc ça veut dire aussi qu'on apprend beaucoup avec les autres apprentis qui sont déjà plus anciens. Les petites questions de débutants, c'est pas la peine que le prof s'en occupe, c'est les autres qui aident dans ce cas-là. Et comme c'est une rotation, ben ça fonctionne très bien, on se trouve pas en septembre avec 18 débutants.
Et cette école existe toujours?
Ben, elle a beaucoup changé, le directeur qui...
Mais l'esprit de l'école reste à ton avis ou pas?
Non.
Non.
Je crois pas, parce que c'est devenu une école payante, comme les autres, et déjà ça casse un peu tout l'esprit. Maintenant, il faut que les élèves se trouvent un logement, ça coûte très cher, et puis voilà, ça devient une école qu'on peut se payer quand on a beaucoup d'argent ou quand on, voilà. C'est plus comme avant. C'est beaucoup moins. Enfin, plus des gens qui vont faire ça pour leur métier, pour leur vie. Là, on forme des gens qui ont un peu d'argent et qui peuvent se changer des idées plus que apprendre un métier. J'ai un peu l'impression de ça. Voilà, c'est très dommage.
Mais si on poursuit cette idée, est-ce que toi, tu aurais envie de redonner ce qu'on t'a donné, c'est-à-dire peut-être un jour de... Je sais pas, c'est de l'utopie, hein, mais on ne sait jamais. De créer toi-même une sorte d'école comme ça? Ça te tenterait,
j'y ai pensé,
par exemple?
Et puis il y a quelqu'un qui a essayé.
Oui.
Et, bon, il ne trouve aucun financement. Mmh. Il ne rentre pas dans la structure. Ici, il faut le CAP, il faut le BP. Pour pouvoir donner ses diplômes, il faut rentrer dans le moule. Et dès qu'on rentre dans le moule, ben, on perd. On ne peut pas fonctionner comme cette école-là. C'est impossible. Donc, le mieux qu'on peut faire actuellement, c'est de prendre des apprentis. C'est ce qu'on fait au chantier d'équipe. On s'est dit, bon, toutes les formations, c'est plutôt nul. Donc, on va faire la formation nous-mêmes. Donc, on va les former nous-mêmes. Ils vont quand même à l'école pour obtenir leur diplôme. Mais la formation sur le tas, on fait nous-mêmes.
Mm-hmm.
Donc on prend le temps de leur expliquer des choses. On passe du temps sur la formation et puis voilà.
Et les élèves
on
viennent.
Les garde quand on peut.
Et les élèves viennent de quelle école? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'ils font comme formation? Qu'est-ce qu'il faut faire comme formation aujourd'hui? Il faut rentrer dans quel lycée pour ensuite obtenir un stage, par exemple, au chantier du GIP?
Un stage, n'importe qui peut obtenir un stage chez nous. Après, pour devenir apprenti chez nous, il faut avoir fait un métier du bois. Donc soit des écoles, les lycées, les Greta, il y a plein d'écoles qui font des...
Et vous recevez des gens un peu de toute la France ou plutôt quand même des gens, des locaux?
Ah non, ils viennent de toute la France. Toute la France, on a aussi des étrangers, on a eu des Anglais... Italien, les gens ils viennent de loin, ouais.
Mm-hmm. Et quelle est la proportion aujourd'hui de femmes dans le métier? C'est quand même un métier quand même plutôt encore masculin.
Ah oui, malheureusement. Oui.
Ouais.
Ouais. On a eu une fille au chantier qui s'est très très bien intégrée et qu'on aurait bien aimé garder, mais elle est partie avec son copain. Voilà. On a des filles en stage. Mais il y en a très peu qui se décident réellement de faire ce métier.
Pourquoi, à ton avis?
Bah, le métier de charpentier, c'est très physique. Ils se rendent vite compte que c'est un peu violent, quand même. Bah, nous, on a une section ébénisterie, parce qu'on fait des aménagements aussi. Donc, ils trouvent très bien leur place là. Mais voilà, on n'a pas eu de candidats vraiment intéressants. Mais ça serait bien, oui, ça change un peu le discours des gars. Ça change un peu l'ambiance, ouais, moi je l'encourage en tout cas.
Oui.
Parce qu'après c'est une question d'organisation, hein. On peut leur trouver, c'est tellement varié comme je disais sur un bateau, il y a du travail très très lourd, mais il y a du travail très fin, avec un peu de volonté, un peu intégrer les femmes dans notre métier sans problème.
Mmh.
Oui, donc Gerde, cette année a eu lieu les événements Fête Maritime de Brest 2012. Est-ce que tu y participes et qu'est-ce que tu penses de cette manifestation ou ces manifestations de Fête Maritime?
Bah, pour nous, c'est du travail toujours. Donc, on a fait deux mises à l'eau, on a préparé deux bateaux pour la fête. Et puis c'est toujours un plaisir d'être sur l'eau avec plein de bateaux. Sauf cette année, on a été très déçus. Il y a beaucoup de bateaux qui n'ont pas été admis pour, on ne sait pas trop pourquoi. Beaucoup de petits bateaux, ça évolue vers une fête un peu grand public où on attire des grands bateaux, des bateaux de plus en plus spectaculaires. Mais sur l'eau, c'est de moins en moins la fête. Donc, du côté navigateur, je suis déçu. Et après, bon, pour le travail, c'est toujours. Pour nous, c'est bien, ça ramène un peu de travail. Parce qu'ils aiment bien avoir des mises à l'eau.
Donc, ça montre un peu votre savoir-faire.
Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, on est bien placé, on est au milieu de la fête.
L'atelier est ouvert. Et puis,
Voilà, donc des gens, ils viennent voir. Mais bon, ça, on fait toute l'année. Hein. Notre atelier est plutôt ouvert. On joue un peu le jeu. Les gens, nous, on aimerait bien rester là où on est. C'est un emplacement menacé, quand même.
Donc là où vous êtes, c'est à côté du nouveau port du château.
Port du château. Le port évolue vers un port plutôt bureau que port. Plutôt bistrot, plutôt resto. Donc pour nous, c'est menaçant. Et on a quand même beaucoup de gens qui nous apprécient et qui nous défendent quand il y a la pression, parce qu'il y a quand même un peu de pression.
Immobilière,
voilà. Donc on tient bon, mais voilà, c'est ça l'évolution du port.
Et donc l'esprit des... Est-ce que tu as été à d'autres fêtes maritimes en dehors de Brest?
Ah, je connais bien les fêtes de Douarnenez, j'aime beaucoup la fête dans le Morbihan, la semaine du golf,
ouais.
Où il y a beaucoup plus de navigation qu'à Brest, par exemple. Brest, c'est un peu
plus
du spectacle.
Regarder des gros bateaux.
Voilà, c'est pour le grand public, c'est un peu la foire, beaucoup de stands, beaucoup de, voilà, d'animation. Donc la fête du golf, jusqu'à là, c'est resté une fête... de navigation. Les bateaux, ils se déplacent de port en port. On est très très bien accueillis dans les ports. Il y a une fête tous les soirs. C'est beaucoup plus convivial. Mais là, c'est pareil. C'est une fête qui a eu beaucoup de succès. Et ça évolue. Donc, plus en plus de bateaux, plus de gros bateaux, plus de spectateurs. Et je crains bien que ça va être de moins en moins bien pour ceux qui sont sur l'eau. Mais bon, il y en a d'autres fêtes qui se créent. À côté de ça, justement, en opposition aux grandes fêtes.
Où ça, par exemple?
En rade de Brest, il y a des petites fêtes, la fête du Merle.
Au Tinduf aussi, c'est
Tinduf, oui, je ne sais plus si ça existe. Aussi, si. La fête de la Fraise, il y a toujours les bateaux. Enfin, il y a plein de petites fêtes. Il y a une fête sur la Loire, sur l'Erdre. C'est pas ça qui manque. Voilà.
Bon, mais merci.